Abbé Faria, de la cause du sommeil lucide, séance 4, suite et fin des deux précédentes. Je pense que ce qui a été dit de la concentration occasionnelle suffit pour donner une idée générale du sommeil lucide et de tout ce qui le concerne. Nous allons nous occuper maintenant de dire quelques mots de la concentration nécessaire pour faire sentir la différence entre elle et la précédente. Il est inutile que nous nous entretenions de la concentration libre, comme celle qui est commune à toute l'espèce humaine. Elle est étrangère au sujet que nous avons entrepris de traiter. Nous avons dit que la concentration nécessaire est une abstraction des sens, mais provoquée par une cause interne indépendante de la volonté propre. Elle ne dérive que de la densité du sang, conséquemment d'une cause tout à fait opposée à celle qui produit la concentration occasionnelle et qui dérive toujours de la liquidité extraordinaire de ce fluide. La concentration nécessaire ne tombe donc que sur les personnes qui s'évanouissent, soit momentanément, soit pour un laps de temps, comme sont les cataleptiques, parce que l'abstraction des sens, où ils sont plongés pendant leur crise, est tout à fait étrangère à leur volonté. C'est cette étape qui est proprement une crise et non l'état de sommeil lucide. La crise n'est qu'un état contraire au cours ordinaire de la nature, et le sommeil lucide, qui n'est qu'un sommeil naturel, mais plus profond que le sommeil ordinaire, et commun à la plus grande partie de l'espèce humaine, est si conforme au cours de la nature que dans la privation, elle ne pourrait pas faire autrement que d'en éprouver de funestes suites. Les spasmes et les malaises qui parfois l'accompagnent ne proviennent pas de sa nature. Ils appartiennent foncièrement aux préventions de l'épopte. Ce qu'il appelle crise, en le distinguant du repos que la nature exige toutes les nuits, ne font donc qu'abuser du mot en le jugeant sur les apparences. L'évanouissement et conséquemment la catalepsie, qui n'en est qu'un complément malheureux, sont réellement des crises parce qu'ils sortent des bornes de l'état naturel de l'homme, quoique le sommeil lucide soit aussi une maladie. Néanmoins, c'est une maladie qui entre dans la catégorie de celles qui sont inséparables de la condition humaine. Nous avons déjà remarqué que l'homme, en naissant, doit appartenir par une nécessité fatale ou à l'état de faiblesse ou à celui d'engorgement. L'état d'équilibre est devenu pour lui un état absolument fantastique. L'évanouissement et la catalepsie renchérissent sur les maladies ordinaires et sont étrangères à ces deux états capitaux. Ils placent l'homme, en certaines façons, hors des efforts ordinaires de la nature. La catalepsie est en général tout évanouissement différent du sommeil lucide et dans l'exercice des facultés physiques et dans celui des facultés intellectuelles, le mouvement nécessaire y est absolument insubordonné à l'emprise de la volonté, quelque effort que fasse le directeur pour le maîtriser. La conviction intime, qui est la source de toutes les actions corporelles et intellectuelles dans les époptes, n'existe ni ne peut exister chez les cataleptiques, parce que la densité du sang, qui est la cause dominante de leur état, n'est pas compatible avec l'existence de cette modification de l'âme qui exige dans le sang une liquidité extraordinaire. L'intuition dans les cataleptiques est, par une raison contraire, beaucoup plus claire et plus nette que dans les épopes. Toujours assujetti par la nature à ignorer la précision du temps et des lieux, ainsi qu'à être moins exact dans la connaissance de l'intérieur des corps opaques que celui des corps animés, qui pour les êtres intuitifs ont une espèce de diaphanéité, l'intuition des cataleptiques dévoile le passé, découvre à distance et prévoit l'avenir sans direction et accompagne ses annonces de toutes les circonstances caractéristiques des événements. Lorsque nous parlerons de la différence qu'il y a entre l'inspiration surnaturelle et la prévision des époques et des cataleptiques, nous nous entretiendrons plus particulièrement de ces entraves qui obstruent leur intuition. En attendant, nous faisons observer que la liberté interne est, chez les cataleptiques, beaucoup plus étendue que chez les époques. Elle est toujours dans ces êtres intuitifs, en raison inverse de la liberté externe. Ce n'est pas dire cependant que les cataleptiques ne puissent, dans leur crise, agir avec leur nombre. Ils se remuent même parfois avec une souplesse qui, naturellement, ne convient pas à l'espèce humaine. C'est-à-dire seulement que tant qu'une impulsion interne spontanément ne leur donne pas cette agilité nerveuse, ils ont dans leur crise l'air de blocs stupides plutôt que d'êtres animés. Ils n'obéissent à personne dans le mouvement de leurs membres. Ils ne fléchissent pas sous l'empire de personne par le défaut de flexibilité dans leurs muscles. Ils jouissent aussi de l'intuition dans la crise, comme parfois les épeptes sans le sommeil. Mais leur intuition, quoique plus claire que celle de ces derniers, n'y est jamais aussi précise que dans les crises. On peut même dire que les cataleptiques sont des êtres constamment intuitifs, tant que dure leur maladie, parce qu'ils sont presque toujours absorbés en eux-mêmes et abstraits des sens. Aussi, toutes les fois qu'on leur soumet des questions sur les événements, ils en donnent la solution sur le champ même, ou après un peu de temps nécessaire pour s'abstraire des sens. La supériorité de l'intuition des cataleptiques sur celle des époptes provient de la condition même de leur état qui n'est plus subordonnée aux lois de la marche régulière de la nature. L'intuition de veille, l'intuition de la catalepsie, commence ou finit l'abstraction des sens dans le sommeil. Et l'intuition pure commence ou finit l'abstraction des sens dans la catalepsie. C'est-à-dire que la catalepsie et la mort sont limitrophes. Il paraît que l'intuition pure se développe dès qu'on est agonisant, parce qu'il est des annonces de moribond qui portent le cachet des prévisions exactes. Mais il est avantageux de développer ici comment le sang, dans ses modifications diamétralement opposées, produit des effets semblables, quoique non identiques. Il faut remarquer d'abord que nul être animé ne peut vivre avec le sang également épais partout, ni également liquide. Ceux chez qui il est épais, dans la plus grande partie de sa masse, en ont toujours une liquidité, du moins dans le diaphragme, et peut-être dans quelques autres organes internes. Et ceux chez qui il est liquide, dans la majorité de sa masse, en ont toujours une densité dans quelques parties du corps qui sont indéterminées et qui varient suivant la complexion des personnes. Il faut remarquer ensuite que cette densité et cette liquidité générale, qui ont leurs nuances et leurs degrés, sont en opposition diamétrale avec cette portion de sang qui, dans quelques parties du corps, diffère de leur nature. C'est dire que plus le sang est épais dans la majorité de sa masse, plus il est liquide dans la minorité où il se recèle, et vice-versa, de sorte que ceux chez qui il est passablement plus épais qu'il ne doit l'être dans la majorité de sa masse, n'en ont qu'une liquidité passablement supérieure à celle qu'il doit avoir par sa nature dans la minorité où il se recèle, et vice-versa. Il faut remarquer enfin que lorsqu'on dit que le sang est épais dans certaines parties du corps et liquide dans les autres parties, on n'entend parler que de ce sang qui, extravasé des veines, vivifie les chairs. Il est indubitable que le sang qui circule dans les artères a constamment et invariablement la même densité dans toute partie donnée du corps. La majorité et la minorité de sa masse, dont il est question ici, ne regardent que celui qui se trouve hors de sa circulation périodique. On n'a pas besoin d'observer que la nature de la majorité de la masse de sang extravasée dans les chairs suit toujours l'intensité de celui qui circule dans les artères et dans les veines. Ce n'est qu'un flux que l'économie animale procure à tout le corps pour sa vivification et pour sa conservation, de la source principale destinée par la nature à répandre les bienfaits de son arrosement sur toute l'étendue de sa merveilleuse course. Les parties du corps qui ne se conforment pas à la nature et à l'intensité de ce flux indiquent qu'il existe des entraves survenues qui en empêchent la communication et l'expansion. Et il y en a toujours qui, dans tous les individus de l'espèce humaine, s'écartent constamment de l'uniformité avec le reste du corps en raison du défaut d'équilibre dans ses solides et ses fluides. Tout évanouissement, et plus particulièrement la catalepsie, sont des effets de la densité du sang dans la plus grande partie de sa masse. Dans la catalepsie surtout, cette densité est si frappante qu'elle rend la circulation du sang imperceptible. Souvent, les cataleptiques paraissent au sens privé de la palpitation, de la pulsation et de la respiration. Aussi, il est arrivé plus d'une fois qu'on en a enterré comme mort pendant qu'il ne demandait qu'à vivre. Par contre-coup, la liquidité du sang dans le diaphragme, et peut-être ailleurs, est chez eux si extraordinaire qu'elle dépasse dans sa nature la liquidité du sang de tout autre individu de l'espèce humaine. C'est là où ces infirmes donnent les signes de vie, toutes les fois qu'on leur parle, en y appliquant la bouche. Nous avons déjà observé que l'intuition est proportionnée à la liquidité du sang. Il est donc clair qu'étant la plus grande chez les cataleptiques que chez les époptes, elle doit aussi provoquer une intuition supérieure chez les premiers à celle des seconds. Nous avons dit à la vérité que dans les époptes, il faut pour leur intuition que la majorité de leur sang soit extraordinairement liquide. Mais il faut remarquer que c'est cette majorité qui ajoute au degré de son intensité. Aussi, une intuition claire ne dérive pas de la quantité de sang liquide, mais de l'intensité qui en résulte. En exigeant donc dans les époques de la majorité de la masse de leur sang extraordinairement liquide, on ne cherche que ce degré de liquidité qui est susceptible d'intuition et qui autrement ne se développe pas. Toutefois, dans tout évanouissement en général, l'âme n'a sur le corps qu'une action restreinte, tandis qu'elle y a une action expansive dans le sommeil lucide. Pour bien comprendre ce que c'est que cette action restreinte et expansive de l'âme, il faut savoir que ce principe moteur n'agit pas de la même manière dans l'état de sensation sur toutes les parties du corps. Il agit plus particulièrement sur le cœur, sur le diaphragme, sur la glande pinéale et sur quelques autres organes internes que sur tout le reste du corps. Aussi, cette impression externe qui serait légère ailleurs est toujours grave dans ces parties, appelées avec raison les parties nobles, parce que ce sont elles qui contribuent à la conservation de l'aptitude de la machine au mouvement vital. La simplicité de l'âme n'empêche pas qu'elle n'agisse simultanément et à la fois sur plusieurs lieux de son enveloppe. C'est pour ne s'être pas formé une juste idée de sa nature qu'on s'est occupé vainement dans les écoles d'en déterminer le siège précis. Ce qui est incirconscriptible à l'espace peut-il être circonscriptible à un lieu? Ce que le corps n'enferme pas peut-il avoir un siège dans le corps? Il est hors de doute que l'esprit ne peut agir immédiatement sur la matière. Celle-ci ne se meut que par contact. Et l'esprit étant simple, il est hors d'état de toucher les corps. Il n'agit donc sur eux que par un intermédiaire qui, quoique matériel, est néanmoins destiné par la nature à ce genre exclusif de fonction. Tels sont les esprits animaux, ce fluide vital ou nerveux dont nous avons déjà parlé plus haut et dont nous parlerons plus amplement dans la suite. Toutefois, la manière dont l'âme agit sur les parties nobles du corps n'est pas la même que celle dont elle agit sur le reste. Une piqûre qui serait légère et imperceptible ailleurs est toujours grave, ou du moins pénible, sur le cœur, sur le diaphragme ou sur la glande pinéale. Cette différence fait voir que l'action de l'âme est plus directe sur ces parties que sur tout le reste du corps, et que là où elle est indirecte, les impressions externes, dans la propagation de leurs mouvements, perdent beaucoup de leur intensité primitive, de sorte que souvent une impression égale à 4 ne produit pas une sensation égale à 2. C'est en raison de cette inégalité des sensations dans l'égalité des impressions externes que nous appellerons immédiate l'action de l'âme sur les parties nobles du corps et médiate celle qui s'étend partout ailleurs. Quoique dans la rigueur du terme, ce principe moteur ne puisse jamais agir immédiatement sur la matière. Dans le sommeil lucide, l'action de l'âme est expansive, c'est-à-dire immédiate, sur toutes les moindres parties du corps qui sont exemptes de sang épais, et suivie de la restriction de sa liberté interne. De sorte que ce principe, intelligent dans sa distraction, est autant étranger à toute sensation, même légère, d'une impression vive, que dans son attention, il est susceptible de toute impression, même la plus légère. Les époques te donnent tous les jours des preuves évidentes de cette économie dans tout leur sommeil. Toutefois, cette action expansive n'est pas aussi énergique dans le sommeil lucide sur tous les corps qu'elle l'est ordinairement sur les parties nobles dans l'état de sensation. Parce que la circulation du sang qui s'y ralentit force les organes internes de se relâcher de l'exercice de leurs fonctions habituelles, et que tout en donnant une nouvelle vigueur aux autres parties du corps, tout en contribuant à restreindre la liberté interne, elle ne prive pas le cœur, le diaphragme et la glande pinéale du droit inaliénable d'entretenir dans la machine le mouvement vital. Dans les évanouissements, l'action de l'âme est restreinte, c'est-à-dire immédiate, seulement sur le diaphragme, et peut-être aussi sur le cœur et sur la glande pinéale, mais elle est presque nulle sur les autres parties du corps. Aussi les cataleptiques, dans leur crise, sont-ils inaccessibles à toute espèce de douleur dans le reste de leur corps. Chez eux, le sang ne circule qu'avec une lenteur imperceptible en raison de sa densité extraordinaire. Et ce motif suffit non seulement pour priver l'âme de son action expansive, mais encore pour la rendre étrangère aux perceptions correspondantes aux impressions que peut recevoir le reste du corps. De cette différence de l'état physique entre les cataleptiques et les époptes, il résulte que ceux-ci, malgré l'imperfection de leur intuition, peuvent se guérir de toute maladie sans traitement, et que les premiers ont toujours besoin de médicaments effectifs, quoique indiqués par eux-mêmes. La raison en est déjà connue. C'est la différence du sang qui ne se modifie pas de la même manière aux ordres du directeur, ou pour mieux dire, qui dans les cataleptiques est toujours rebelle à la modification voulue, en raison du défaut d'exercice de leur liberté interne. La liberté externe dans notre sujet est une faculté de maîtriser au gré du concentrateur tous les mouvements libres et nécessaires du corps. Et la liberté interne est celle de replier l'attention au gré des désirs et du besoin sur tout objet qui sourit à l'esprit. La liberté externe dans ces êtres intuitifs est en raison inverse de la liberté interne, c'est-à-dire plus la liberté externe est étendue et plus la liberté interne est rétrécie, et vice-versa. Il s'ensuit que la lucidité est toujours en raison directe de la liberté interne, c'est-à-dire plus la liberté interne est étendue et plus la lucidité est solide. La liberté externe ne s'entrave qu'autant que s'affaiblit le commerce de l'âme avec le corps. Par là, comme dans cette progression décroissante, l'âme, en se concentrant autant que possible, se dégage du corps et prend son essor vers la jouissance de ses facultés spirituelles. Elle trouve sa liberté interne en opposition avec sa liberté externe, et sa lucidité suit les degrés de la première. Voilà la raison pour laquelle les cataleptiques en crise, et en général toutes les personnes évanouies qui sont plus concentrées que celles qui dorment du sommeil lucide, sont plus exactes dans leurs annonces et plus entravées dans le mouvement de leurs membres que ces dernières. Toutefois, la plénitude de la liberté interne n'est jamais compatible avec aucune de ces espèces de concentration. Elle n'existe ni ne peut exister hors d'état de parfaite jouissance des sorts, des sens, ou de la pure spiritualité de l'âme avec la séparation d'avec le corps. Même dans l'état de sensation, elle est encore incomplète, quoique suffisante, pour être responsable du mérite et du démérite, comme nous le verrons dans la suite. La liberté interne perd autant que l'âme s'écarte de son intuition pure dans son union avec l'enveloppe qu'elle informe. C'est pour cette raison que nous avons déterminé, avec la définition générale de la concentration, que c'est une abstraction des sens avec la restriction de la liberté interne. La raison pour laquelle la densité du sang dans les cataleptiques et en général dans les personnes évanouies contribue plus à l'abstraction des sens que sa liquidité dans le sommeil lucide. Elle peut être puisée dans la considération même de la nature des deux concentrations. Le sommeil qui se divise en engourdissement, en assoupissement et en un sommeil proprement dit est toujours un état naturel. Et il appartient à la nature de conserver dans son intégrité, autant qu'il dépend d'elle, l'ouvrage qu'elle dirige et surveille au milieu des vicissitudes auxquelles il est assujetti. Mais puisque l'état naturel de l'homme est la jouissance des sens, la nature tâche que la concentration dont elle est obligée de faire usage pour la réparation des forces perdues ne dépasse pas les bornes de ses droits et de sa juridiction. Il faut donc que quelque profonde que soit dans le sommeil l'abstraction des sens, elle se lie toujours, du moins indirectement, à l'état de sensation. Aussi, tout épopte étant engagé à replier son attention sur lui-même pour ce qui concerne ses annonces et ses décisions, garde au réveil une parfaite mémoire de tout ce qui lui a été recommandé pendant son sommeil. Cet effort n'est nullement compatible avec les cataleptiques et les personnes évanouies. Ils se trouvent en raison de leur position hors des droits et de la juridiction de la nature individuelle. Toute maladie qui entrave l'exercice des fonctions de l'espèce humaine est toujours contraire au but de sa surveillance, et c'est par là qu'il est clair que l'intuition même dont ces malades jouissent appartient plus à la proximité de la séparation des deux substances qu'à l'intimité de leur union. Quoique le danger n'y soit pas toujours imminent, il y a néanmoins toujours un isolement marqué entre l'âme et le corps. La densité du sang qui le provoque ressemble plus à une coagulation générale de toute sa masse qu'à cette épaisseur qui est compatible avec l'état naturel de l'homme. L'âme ne pouvant agir que sur quelques parties du corps avec lesquelles se trouve interceptée toute correspondance régulière du reste, se voit abandonnée à elle-même. C'est dire que les sens externes étant paralysés, plutôt qu'engourdis, comme dans le sommeil, que tout mouvement externe étant suspendu, que la respiration, la palpitation du cœur, la circulation du sang devenant imperceptibles, au point d'être considérées comme arrêtées, l'âme, tout en tenant encore comme par un fil à son enveloppe, a l'apparence d'appartenir moins à l'ordre physique qu'à l'ordre intellectuel. Je n'ai pas besoin d'ajouter ici que les cataleptiques sont plus en état de soigner les maladies que les époptes, en raison de la supériorité de leur intuition et conséquemment de leur lucidité, mais non par ce prétendu rapport dont on n'a jamais su déterminer l'idée. Ou si l'on l'a déterminé quelquefois, on ne l'a fait qu'en y attachant de nouvelles erreurs. Dans l'étude du sommeil lucide, on a souvent adopté des mots sans trop s'embarrasser des idées qu'ils devaient exprimer. Ainsi que nous l'avons déjà observé dans une foule d'autres dénominations. Ces êtres intuitifs n'atteignent pas les objets par les sens comme l'espèce humaine dans son état de veille. La condition naturelle de l'homme exige qu'il ne puisse former l'idée de chacune des propriétés des corps que par les cinq sens qui y répondent. Le médecin, en tâtant le pouls d'un malade, n'y trouve précisément que ce qui concerne le sens de palper, c'est-à-dire la célérité ou la lenteur, la force ou la faiblesse de la circulation du sang. Et il en conjecture ensuite la situation du malade et l'état de la maladie. Il n'entend sûrement pas le son par ce procédé, il ne flaire pas l'odeur, il ne goûte pas la saveur, il ne voit pas la couleur, la quantité et les distances. Parce que la connaissance de ces objets est un apanage exclusif des quatre autres sens et non celui de palper. Si les cataleptiques et les époptes ne prennent pas connaissance des objets externes par les sens mais par l'intuition, c'est-à-dire par une faculté qui leur donne une jouissance simultanée des fonctions semblables à celles des cinq sens et au-delà, sans distance, ni de temps, ni de lieu, il est clair qu'ils n'ont plus besoin de toucher un objet externe que de l'entendre, de le flairer, de le goûter, de le voir, pour le connaître. Ils doivent l'atteindre tout aussi bien étant à plusieurs centaines de lieues que s'il était devant eux. Ce qu'on a voulu entendre par le mot rapport n'est donc autre chose que la précision de tout ce qui détermine un individu et le distingue de la masse générale de l'espèce humaine. C'est pour cette raison qu'un tactile qui est imbibé de miasmes individuels fait connaître à ces êtres intuitifs une personne qui serait aux antipodes, comme si elle était en contact avec eux. Le tactile ne devient équivoque qu'en raison du mélange de miasmes étrangers qui offrent à leur esprit une personne pour une autre. Les époptes, surtout, ne demandent à toucher les malades ou toute autre personne qui veulent les consulter que lorsqu'ils veulent fixer leur incertitude sur la précision des individus. L'esprit des personnes abstraites de sens est beaucoup plus vacillant et volage que dans l'état de veille. Dans ce dernier état, il n'est stable et constant que par des efforts continuels. L'observation la plus importante que présenteront ici toutes ces considérations sur l'abstraction des sens est qu'il faut avoir recours à d'autres principes pour en expliquer la nature qu'à ceux qu'on puise directement dans les connaissances sensibles. Développer le sommeil lucide n'est point une science qui appartienne aux concentrateurs. On sait que de tout temps, les enfants dans les collèges, les soldats dans leurs casernes, les matelots sur leurs vaisseaux ont fait parler de leurs camarades ou en touchant une partie quelconque de leur corps ou en leur adressant simplement la parole. Il arrive même souvent que sous le léger attouchement des barbiers et des perruquiers, on se sent entraîné à un doux sommeil, tandis que les concentrateurs, loin d'y penser, désirent au contraire que ceux qu'ils soignent prêtent toute leur attention à leur habileté et à leur talent. La chose la plus épineuse est d'y savoir démêler la vérité d'avec l'erreur et de la lier avec les principes également reçus par tout le monde. Il est certain que les êtres intuitifs ne voient les objets que par les espèces. Et il est également certain qu'ils lisent parfois la pensée d'autrui. Comment ce qui n'a pas de forme sensible peut-il être accessible à une intuition mixte? Il est certain que ces oracles voient souvent une chimère pour une réalité, de sorte qu'on peut regarder comme une personne extrêmement lucide celle qui, dans 100 annonces, réussit à dire 10 vérités, même susceptibles d'interprétation. Comment connaîtra-t-on que, dans la solution d'une question posée, elle a prononcé de science certaine? D'autant plus que deux de ces êtres intuitifs, tout en annonçant une vérité réelle, sont rarement d'accord entre eux dans le sens de leurs énonciations. Il est certain qu'une de ces personnes, abstraite des sens, étant même dépouillée de toute prévention, voit présent le passé, l'avenir et ce qui est à distance de lieu, à moins qu'elle n'ait devant son esprit une échelle de leur mesure. Elle voit de la même manière qu'un curieux contemple un tableau qui retrace le commencement, la suite et la fin d'une aventure historique. Et le plus souvent, cette représentation ne se lie pas avec les idées de l'état de veille. Comment démêlera-t-on de ce chaos la vérité annoncée? Il est certain que ces êtres intuitifs ne voient pas les lieux relatifs d'un objet donné, et conséquemment, il ne voit pas non plus son lieu absolu. Par là, il trouve souvent à gauche ce qui est à droite, et vice-versa. Et s'il voit un tout, il n'en voit pas les parties, et vice-versa. Même, il voit souvent les parties détachées de leur tout, et vice-versa. Comment conciliera-t-on ce genre d'existence avec les principes de l'expérience ? Mille autres paradoxes de cette nature dérivent de l'abstraction des sens. Ils ne se lient pas directement avec les connaissances sensibles, mais ils existent et exigent une explication pour recommander la science et la prétendue puissance des concentrateurs. Ce n'est pas ici le lieu de développer tous ces étonnants effets de l'intuition mixte. Nous remplirons dans la suite cette tâche qui entre dans les branches de notre entreprise. Mais nous observons ici qu'il est des personnes qui décident péremptoirement que cet état d'abstraction des sens est un état d'aberration et de démence, sans nullement se douter de leur ignorance, et prétendent que c'est contre la raison parce que c'est au-dessus de la raison. Quoique les faits même démentent, dans notre sujet, le sentiment qu'expriment ces mots sous la fastueuse dénomination de principe. Néanmoins, il est utile ici, pour l'honneur de la saine philosophie, de révéler toute l'absurdité qu'ils énoncent. Ce qui est au-dessus de la raison est toujours une chose qui existe. Et ce qui est contre la raison n'est qu'une chose qui répugne à exister. Dire donc que ce qui est au-dessus de la raison est contre la raison, c'est énoncer que ce qui existe répugne en même temps à exister. C'est aussi énoncer une contradiction en sentiment, d'après ce que nous avons déjà dit plus haut, c'est-à-dire que la conception humaine ne peut être la mesure de l'existence d'une vérité. Parce que la raison conçoit ne répond qu'aux impressions qui frappent les organes externes, et ces impressions existent parfois sans aucune action de leur part. D'après la nature de la condition humaine, ainsi, dans ce que même la raison conçoit, elle conçoit quelquefois une vérité pour une erreur et une erreur pour une vérité. Ce prétendu principe, ce qui est au-dessus de la raison et contre la raison, n'est donc qu'une absurdité en termes et en sentiments. Il n'a été forgé que de la fausse considération de l'assimilation de l'inconcevable avec le contradictoire. L'inconcevable n'est tel que par le défaut d'aptitude de l'esprit, au lieu que le contradictoire est inconcevable par les termes mêmes. Le premier est au second, ce qu'est le genre à ses espèces, c'est-à-dire que l'inconcevable embrasse le contradictoire avec d'autres espèces. Ce n'est donc en restreignant la latitude de ce qui est inconcevable à ce qui est contradictoire qu'on conclut abusivement contre tout principe de raisonnement que ce qui est au-dessus de la raison est aussi contre la raison. Il y a cette différence entre l'un et l'autre. C'est que l'idée du premier est positive en elle-même et négative en représentation, et que celle du second est négative en elle-même et en représentation, et c'est ce qui le rend inconcevable pour être absurde. L'idée du point et de la ligne chez les géomètres est positive en elle-même et négative en représentation, parce que dans la première acception, elle offre à l'esprit un principe des quantités positives, comme le commencement d'une longueur sans étendue et une longueur sans largeur. Et dans la seconde acception, elle ne présente à l'esprit que l'absence de toute étendue et de toute largeur. Au contraire, l'idée du néant et de l'absurde n'est en elle-même et en représentation que la conception de leur impossibilité d'exister et par cela même de leur négation absolue. Celui qui prétendrait déduire d'une négation relative une négation absolue ne ferait qu'inférer des prémices affirmatives, une conclusion négative. Si un pareil raisonnement est admissible dans la recherche de la vérité ou dans le développement de l'erreur, il n'y aura plus aucune circonstance où une discussion contradictoire puisse être défectueuse dans l'un des deux sens opposés. Ce qui est au-dessus de la raison est donc si loin d'être contre la raison qu'il est au contraire conforme à la raison, parce qu'il la force de reconnaître la restriction de sa conception. Elle sent qu'il est quelque chose qu'elle ne conçoit pas. Avouer que cette chose existe ou qu'elle peut exister, c'est précisément ce qu'on appelle une chose outre la raison. Et elle est à l'inconcevable ce que sont à peu près les tours de la jonglerie à l'admiration du vulgaire. Au lieu que ce qui est outre la raison tient à la restriction du génie de l'homme dont les bornes sont marquées au seul coin du sensible. Ainsi, celui qui conclurait que Dieu, l'esprit, l'éternité et d'autres vérités de cette hauteur sont des chimères parce qu'elles sont inconcevables, ne ferait que prétendre que les causes précises du feu, de l'or, de l'électricité, du galvanisme n'existent pas, parce qu'elles sont inconnues et conséquemment inconcevables. L'ignorance qui n'est point invincible dans la recherche de ces dernières et l'impossibilité ne peut pas être surmontée dans la conception des premières, ne dérogent en rien à l'exactitude de la similitude. Parce qu'au moment où l'esprit ignore les unes et ne conçoit pas les autres, la raison est également dépourvue des moyens d'en combiner les rapports avec les principes démontrés. La considération de la condition humaine même démontre donc que pour saisir certaines vérités qui sont inconcevables, il faut avoir recours à une autre raison que la raison commune. Mais ce que l'abstraction des sens développe est bien loin d'entrer dans la catégorie des vérités inconcevables, comme on le verra dans la suite. Et quoi qu'il soit mêlé de mille erreurs, il présente encore néanmoins plus de ressources pour découvrir des vérités nécessaires que le seul ministère des sens étayé de la raison commune. C'est toujours un réservoir de lumière sublime. Avec de la peine, des précautions et de l'adresse, on peut toujours épuiser ce qui manque au perfectionnement de toutes les sciences humaines, parce que cet état n'embrasse rien moins qu'une science universelle. En morale, par exemple, ce que les philosophes, avec faste et pompe, nous étalent d'érudition, se réduit simplement à une mesquine théorie des vertus et de leurs ramifications. Était-ce là nous instruire de ce qu'est la source de la moralité des actions humaines? Ce qui en est la nature est tout autre chose que ceux qui en sont les moyens. Pour notre utilité et pour le progrès des connaissances naturelles, il fallait pour apprendre comment on devait s'y prendre pour s'en douer et pour s'en rendre la pratique familière. Un vrai philosophe qui doit expliquer les effets par les causes et les causes par les effets aurait par cet effort rempli sa tâche. Et en démontrant la liaison de ses vertus avec le physique de l'homme, il en aurait facilité l'exercice. On aurait connu par ce travail que la moralité des actions qui dépend de la liberté dépend aussi de la disposition de l'enveloppe et qu'elle y est parfois si intimement liée que celle-ci, étant une fois dérangée de sa souplesse, affaiblit aussi l'arbitre et rend l'action nécessaire. L'Évangile, certes, n'avait pas le but d'instruire les hommes dans les sciences naturelles, et il est le seul qui, en ce qu'il fallait pour la pratique des vertus morales, ait touché sans raisonner la théorie de la moralité des actions humaines. Il se contenta de conseiller toute l'espèce de privation des sens pour réprimer la chair. Et il démontra par l'exemple de milliers de ses partisans que c'est la seule manière de faire prévaloir sur les passions désordonnées l'empire de la raison, étant surtout étayé de la pratique de ses maximes. Cette démarche simple vers l'exercice des vertus morales n'avait assurément pas besoin du poids de l'autorité divine pour être suivie comme certaine et infaillible. Un regard réfléchi sur la nature humaine suffisait pour la découvrir et pour en sentir l'utilité, la nécessité et l'efficacité. Quelques philosophes avant l'Évangile avaient déjà démêlé ce secret, qui pour être palpable n'en était pas un. mais ils en avaient si fort ignoré l'application à l'usage et à la pratique qu'ils semblaient avoir pris la tâche d'outrager la nature. Entre autres, Brahma, législateur des Indes orientales, avait pressenti bien avant le divin fondateur du christianisme que la mortification des sens était la seule règle de la moralité des actions humaines. Il était persuadé que l'obéissance de la chair à la raison, étant surtout dirigée par des préceptes positifs, en était une suite nécessaire, et à son tour, la source des vertus morales. Mais ces armes utiles, maniées par une raison farouche, ne pouvaient que trancher avec désavantage et sans ménagement. Une épée entre les mains inexpertes d'un enfant peut-elle présenter plus de moyens de sûreté que de danger ? Aussi, ce que ce législateur conseille à ses sectateurs pour la perfection des mœurs ou pour l'expiation des crimes est si supérieur aux forces de la nature que si les attestations répétées des voyageurs ne rendaient pas dignes de foi les pénitences volontaires ou canoniques des fakirs, on aurait de la peine à croire que ces hommes pétris d'os et de chair puissent se soumettre à un pareil genre de vie. Je ne sache pas que d'autres philosophes qui se sont mêlés de la législation aient tenu le juste milieu qui brille tant dans le code de l'Évangile pour inculquer à leurs prosélytes le moyen de pratiquer les vertus morales. Mais je sais que nul d'entre eux ne s'est avisé de prononcer sur ce qui attire les hommes moins vers la vertu que vers le vice. Il me semble qu'avant de donner des préceptes sur les mœurs, il fallait décider. Pourquoi l'affluence des délices a servi la raison ? Ce que c'est que cette raison ? Pourquoi étant le juge du bien et du mal, elle n'est pas la même chez tous les hommes ? Pourquoi elle a plus d'empire sur un corps énervé par les privations ? En quoi consiste principalement les moyens de la rébellion de la chair contre l'autorité de la raison. Si elle peut, cette raison abandonnée à ses propres forces, avoir assez d'ascendant sur le corps même énervé par les privations, la solution de ces questions et d'autres qui y sont analogues aurait appris à l'homme que la répugnance qu'il trouve entre son penchant et sa raison dans la pratique de vertus morales tient à une cause descendante, dépendante de son arbitre, et que dans ce sentier délicat et épineux, tout ce qu'il a servi à ses passions est subordonné à son choix et à son option. Il aurait vu par là que les malheurs qui en résultent sont tous son ouvrage propre, et que les plaintes qu'il élève contre son sort sont de nouveaux crimes dignes de nouveaux châtiments. Je ne trouve pas non plus que les philosophes aient été plus heureux dans leur recherche sur la physique que sur l'éthique. Dans l'optique, dans l'acoustique, dans la connaissance du système cérébral, en un mot, dans l'étude de chaque partie de l'homme, ils se sont toujours occupés de ce qui en fait l'objet, plutôt que des sources respectives qui en font les différences. Cette étude nous aurait dessillé les yeux sur la connaissance de son matériel. Et au lieu de nous rendre les témoins passifs de ce qu'il a, elle nous aurait appris comment il en use. De la négligence de ce soin, il résulte que tout obstacle qui tend à provoquer sa destruction devient un sujet mystérieux à la science médicale. Les moyens que ses professeurs emploient pour le pénétrer ne sortent plus de la sphère des conjectures et s'opposent souvent à l'attente conçue. L'anatomie en général, cette science dans laquelle on croit en Europe l'emporter sur tous les peuples de la Terre, n'est exacte qu'à s'enfermer dans les étroites bornes que lui prescrit sa précise étymologie. La dissection des cadavres ne fournit à l'étudiant qu'une vaine nomenclature des parties du corps humain. On croit y avoir appris tout ce que constitue l'homme, quand on n'a fait qu'encombrer la mémoire d'une foule de termes hétéroclites. Elle donne à la vérité l'idée des formes de toutes les parties qui composent la machine humaine, mais nullement du jeu qui seul doit être le but de l'étude et de ses recherches. L'impulsion que donne le principe moteur à la machine entière nous conduirait, étant connue, à la science des moyens aptes à l'entretenir sans interruption dans son mouvement. Quand même les causes secondaires, malgré toute la vigilance et les précautions, en traverseraient la continuité. Mais cette attente ne peut avoir d'issue heureuse qu'en examinant l'harmonie de tous les membres d'un corps vivant. Et il y a moins loin de l'amalgame hétérogène de la fange au métal le plus pur que d'un corps desséché à un corps animé. Le sang des peuples qu'on appelle barbares en Europe me semble de ce côté plus digne d'envie que celui des nations policées. Ils ignorent certes la forme des parties qui composent l'enveloppe humaine, mais ils ne présentent pas à la vue comme ces derniers le hideux spectacle de tant de bossus et de tant de boiteux, de tant de borgnes et d'aveugles, de tant de fous et d'imbéciles, de tant de goutteux et de paralytiques, de tant de sourds et de muets, et tant de ces autres infirmes qui, sans avoir un caractère précis de leurs mots, souffrent cruellement pour la vie avec la désespérante certitude d'être inguérissables. Je ne sais comment ils font pour jouir d'une santé constante et uniforme, mais il est certain qu'au milieu de leur stupide ignorance, le principe de la conservation de soi-même les a fait connaître plus de moyens de se préserver des mots ordinaires qu'aux nations civilisées, qui cherchent ces mots avec des appareils imposants. Il faut pour le moins convenir que dans son matériel, l'homme est le plus connu là où il est le moins étudié, que là où l'on fait de grands efforts pour l'approfondir. Si nous entrons dans les autres parties de la physique, nous y verrons que les hypothèses, au lieu des théories positives, aient beaucoup plus de problèmes que de démonstrations. Je conviens que ce que la philosophie a fait est beaucoup plus qu'on ne devait en espérer, en raison des entraves et des difficultés inexplicables qu'on rencontre dans cette carrière. Mais elle peut faire encore davantage à l'aide de l'état d'abstraction des sens ou à côté d'une foule d'erreurs, la nature, en exigeant de l'homme une étude sérieuse et une méditation profonde, a caché la clé de beaucoup de vérités utiles et lumineuses